Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans Au fil des pages, aujourd'hui nous reprenons pour la troisième partie l'esquisse d'une histoire universelle par Jean Béchler, paru aux éditions Fayard, pour aborder aujourd'hui l'histoire moderne. Jean Béchler, vous dites que l'émergence de la modernité, c'est un accident fécond pour l'espèce humaine. C'est un tournant qui était imprévisible, mais qui a été fécond. Alors, voulez-vous vous expliquer sur ce point ?
Je vais essayer de le faire dans les quelques secondes que vous
quelques
me
minutes,
pensez.
Quelques minutes.
Quelques minutes, parce que c'est évidemment un problème extrêmement compliqué. Il y a deux aspects au problème. D'un côté, la modernité a valeur pour l'espèce humaine. Et dans la thèse que je défends, elle inaugure un troisième stade tout aussi radicalement nouveau que l'a été le néolithique par rapport au
paléolithique,
d'un côté. Mais de l'autre, les documents sont suffisamment abondants dorénavant pour que nous puissions établir sans l'ombre d'un doute que cette modernité a émergé en Europe.
Uniquement. C'est une anomalie, voilà. Vous dites.
Et donc, il faut repérer ce qui, dans l'histoire européenne, permet d'expliquer que du radicalement nouveau a émergé. Alors, pour essayer de résoudre cette énigme qui a retenu tout de même un certain nombre d'auteurs depuis un certain nombre de siècles, parce que la modernité commence à émerger au 14e, 15e siècle,
16e,
pour l'essentiel.
Alors
c'est quoi la
modernité ?
Il faut tout de même donner...
Donnez-nous une petite définition.
Une définition, c'est un ensemble de caractères définissent un champ de possibilités culturelles ou de développements humains culturels radicalement nouveaux. Alors, lorsqu'on me pousse dans mes derniers retranchements, je réduis à 4 nouveautés radicales la modernité.
Oui, premièrement,
et sans hiérarchie, si vous voulez, c'est une simple énumération. Alors, la science, c'est-à-dire un nouveau mode du connaître qui postule que la réalité ou les réalités sont écrites dans des langages que l'intelligence humaine est capable de décoder. Et qu'à partir du moment où on décode les langages, on peut lire le réel dans sa langue propre. Le réel physique, le réel vivant et le réel humain. Alors, la science appliquée à tel ou tel segment du réel se transforme en les sciences, physique, chimie, et ainsi de suite. Donc, c'est une nouvelle manière, si vous
une
voulez,
rationalisation
de percevoir, qui a cette faculté tout à fait inouïe de permettre d'expliquer, du moins à terme, pourquoi les choses sont comme elles sont. Et à partir du moment où on peut expliquer, la différence entre nature et artifice disparaît. On peut, si vous voulez, reproduire la nature telle que spontanément, en suivant les indications de sa propre langue, si vous voulez, a fini par émerger dans le réel. Donc, alors, l'humanité se donne les moyens de maîtriser rationnellement des segments du réel dont la maîtrise lui échappait jusque-là.
Alors, deuxième caractère
central, c'est la démocratie. Je préfère parler de démocratisation.
Voilà.
C'est-à-dire un type de régime politique qui repose sur le postulat fondateur que toute relation de pouvoir est enracinée dans ceux qui obéissent et qui consentent à obéir parce qu'ils estiment qu'ils ont intérêt à le faire, et ils ont intérêt à le faire parce qu'il faut que des compétents appréciés par ceux qui obéissent, prennent en charge des entreprises collectives qui ne peuvent pas aboutir en ordre dispersé. Alors, la démocratisation est un phénomène non pas nouveau dans les histoires humaines, parce que j'ai montré que le régime exclusif de la période paléolithique
existait,
était une démocratie pure et parfaite. Bien entendu, aucune des institutions que nous connaissons en tant que démocratique n'existait. Mais les règles fondatrices, les procédures et les dispositifs étaient en place. Et puis, pendant la période traditionnelle, toute démocratie disparaît pour des raisons tout à fait intelligibles, avec quelques exceptions dans les cités, en particulier dans les cités méditerranéennes. Et puis en Europe, j'anticipe.
Voilà, troisième caractère, parce que vous en avez annoncé quatre. Moi, j'en avais noté cinq, donc
oui,
on va voir si on est d'accord.
Le troisième est la différenciation des ordres. Alors ça, c'est un peu technique, mais technique de théorie sociologique. L'expression désigne le fait que les activités humaines tendent à se concentrer sur leur rationalité propre. Le politique devient politique, l'économique devient économique, le religieux religieux, et il n'y a plus, si vous voulez, ces superpositions, ces contaminations, ces confusions, si vous voulez, entre les différents domaines ou champs,
voilà.
J'appelle ça des ordres,
les
des activités humaines. Alors tout cela est tendanciel. Enfin. Quatrièmement, l'individuation.
Oui,
c'est-à-dire le fait que les individus humains tendent à devenir les responsables de toutes les activités humaines. Alors là également, ce n'est pas inédit. Dans le paléolithique, les individus étaient parfaitement individués pour des raisons intelligibles, mais d'une manière différente de la période moderne. Et alors, le cinquième, c'est le développement économique.
Oui, c'est ça. J'avais noté le capitalisme, mais
oui,
je ne sais pas si c'est...
Capitalisme ou développement économique, n'entrant
voilà.
pas dans ces distinctions, dans ce cadre-ci,
dans
c'est
ce cadre-là,
pareil.
Voilà.
C'est un des caractères les plus frappants, mais je crois qu'il est dérivé des quatre autres. Et que par conséquent, c'est plutôt une conséquence des quatre autres, et on peut plaider qu'à terme, ce ne sera une période de transition. Mais je ne me battrai pas sur quatre ou cinq.
Alors, Jean Béchelaire, donc, l'humanité, avec la modernité, est-elle en train de franchir un nouveau seuil? Donc, vous dites qu'elle franchit un troisième stade, mais est-ce quelle vision de l'avenir cela développe-t-il chez vous?
Aucune.
Vous constatez aucune. Simplement.
Mais plaçons-nous dans la position d'un paléolithique il y a 10 000 ans.
Il ne peut pas prévoir.
Rigoureusement,
rien.
À supposer qu'il dispose des informations nécessaires, il aurait pu dire « l'humanité est entrée dans une phase inédite » qu'il aurait pu appeler, comme ça pour s'amuser, « néolithisation ». Mais il aurait été rigoureusement incapable de prédire le bouddhisme, le taoïsme, le catholicisme,
oui.
la peinture de paysages chinoises, Giotto, enfin,
etc. Donc nous, aujourd'hui, nous ne pouvons
dire.
Pas non plus
voilà.
prédire...
Nous ne savons absolument pas de quoi l'avenir sera fait. Alors, je ne parle pas des événements, parce que ça, c'est évident, mais du contenu culturel, c'est-à-dire des modes d'humanisation qui émergeront dans les décennies, les siècles et les millénaires. Alors, il n'y a aucune raison pour que ce stade soit le dernier. Il y aura peut-être un quatrième, un cinquième, j'en sais rien.
Si tant est que l'espèce est toujours là, mais vous n'avez pas l'air inquiet pour l'espèce, au fond.
Ah, elle peut disparaître. Je ne crois absolument pas aux apocalypses que l'on nous décrit régulièrement depuis un certain nombre de décennies.
Même concernant la démographie c'est-à-dire la perte, je veux dire la démographie qui diminuerait, qui ne reproduirait plus l'espèce.
Je pense que c'est le problème le plus grave que l'humanité doit aborder, commence à aborder, et pour lequel les solutions ne sont pas déjà trouvées. Mais j'ai tout de même beaucoup de peine à imaginer que l'humanité disparaîtra biologiquement parce que les femmes auront définitivement renoncé à avoir des enfants.
Ah, moi, je ne sais pas.
Peut-être, nous verrons, si j'ose dire. je ne crois pas beaucoup à ces... Mais une énorme météorite qui heurte la planète, c'est possible. Il peut se passer des choses. Ça fait partie de la définition que je donne de l'histoire, du contingent, de l'imprévisible, intelligible rétrospectivement, s'il n'y a plus aucun être humain pour expliquer, mais il y a... une explication sera disponible pour les extraterrestres.
Je voudrais au moins laisser nos auditeurs sur cette phrase à méditer de Jean Béchler. L'humanité, entre guillemets, admirable comme espèce et déplorable dans ses représentants.
Oui.
Je trouve que c'est votre philosophie.
Tout à fait.
C'est votre conception
fait,
de l'humanité. Mais
Nous ne sommes, pour ainsi dire, jamais à la hauteur de l'espèce.
Enfin. Votre ouvrage Esquisse d'une histoire universelle porte plutôt à un certain optimisme, je pense, finalement, que l'espèce humaine, ce n'est pas si mal, malgré toutes les bêtises qu'elle peut faire. Et Jean Béchler, je vous remercie d'avoir consacré du temps à ces trois émissions pour Canal Académie. Jean Béchler, Esquisse d'une histoire universelle, paru chez Fayard. À bientôt.